Quel bel organe!
Je vous remercie.
Vous êtes musicien?
Je suis barde gaulois.
Oh mon Dieu, mais moi aussi, je suis barde.
Je suis Assurance Tourix.
Oui, Assurance Tourix.
Je connais toutes vos chansons par cœur. L'harmonique,
retrouve l'After School à tous les jours 17h-20h sur Dynamique Radio.
Dynamique Radio, on est en direct sur le www.dynamiqueradio.fr. C'est l'After School.
Ouais.
En direct de chez Vincent.
Ouais.
À la foire du trône.
Ouais. Avec Frédéric. Ouais.
Pas que,
Isabelle.
Avec Kisa, ouais. Avec notre
Stan.
Ami Michel Le Rocker.
Ouais.
Avec Père Henri.
Ouais.
Et avec J. Warner au manette.
Ouais.
Sans oublier Stan.
C'est un petit ouais là.
Michel Lebeau.
Vous êtes pas cool là.
Vous êtes pas cool. Il y en a du monde aujourd'hui.
Il y en a du monde aujourd'hui. Bah oui, il y a un peu de monde. Ouais. Le restaurant est fermé. Donc c'est une ambiance nocturne. On
absolument,
peut le dire comme ça.
On est un peu
il
n'y
a
nocturne.
Pas les lumières habituelles, mais on les salue parce qu'il y a un gros week-end qui s'annonce là. Ils vont bosser 10 fois plus hein, parce qu'il y a des journées où c'est 10 fois plus de travail qu'en semaine. Donc les mecs se reposent avant le dernier rush. Demain, nous serons en direct à la Foire du Trône et je vous annoncerai le programme en fin d'émission. Un très très beau programme pour conclure cet After School à la Foire du Trône. Ça fait un mois que nous sommes là. Et vous nous entendrez très prochainement d'un autre lieu aussi. Ça sera l'occasion d'en parler aussi demain. Mais on a avec nous quand même notre invité Charles Bayonne. Bonjour Charles, on peut t'applaudir.
Bonjour.
Déjà.
Oui.
Il a trouvé, ce qui est déjà énorme. Ça va Charles?
Ça va super bien. Ouais.
Ça va? Ouais, bravo, merci les gars. Ah, on a des,
déjà les fans.
On a des spectateurs.
On nous écoute là-bas,
voilà. On a des fans.
Il y a la Guten Tag, bonjour.
On a des
salut.
Supporters.
Comment on dit en russe, bonjour? Personne ne sait.
Idée.
C'est pas grave. Alors Charles, il vient, Charles Bayonne, mm-hmm. voilà, photographe de son état, on peut le dire
on
comme
peut
ça.
Dire ça ouais.
Et il vient nous voir parce qu'il y a une super expo, il paraît,
exactement.
Autour du bus Palladium.
Exactement. Normalement, c'est Priviet en russe.
Priviet.
Priviet.
Très bien, on les salue.
De mémoire.
On les salue. Alors, le bus Palladium, et oui, parce qu'il y a toute une histoire autour du bus, hein. Le bus normalement doit fermer, et du coup, bah, il y a, on peut le dire comme ça, un collectif d'artistes qui se crée et qui rend hommage à cette salle mythique, il faut le dire, de Paris. Le bus Palladium.
C'est connu. Hein.
C'est connu, et c'est un bel hommage, et ça se passe, c'est une sorte de vernissage dans une galerie. Du côté de Saint-Ouen.
Exactement. Donc c'est la galerie Amarage, donc qui est située à Saint-Ouen, au 88 rue des Rosiers.
Okay.
Et là, en fait, c'est vrai qu'on est, ça va être une exposition. C'est une exposition qui est pluridisciplinaire. On a tous rendu hommage au bus à notre manière.
Très bien. Et toi, c'est à travers des photos, je
et moi, effectivement, c'est à travers des photos où j'ai retracé en fait des pochettes d'albums du rock qui ont marqué le XXe siècle.
Okay.
Et revisité en photographie.
Et revisiter en photographie, d'accord.
Ouais.
Ok. Est-ce que toi, tu étais client du bus Palladium?
Alors, j'ai été client du bus Palladium
ouais, okay.
Avant de devenir leur photographe. Et donc, j'ai rencontré les autres photographes du bus Palladium.
D'accord,
donc,
parce que vous êtes plusieurs?
On a été plusieurs, ouais, sur la liste.
Ok.
C'est pas mal d'anecdotes par rapport à ça.
Ouais.
Et notamment, d'ailleurs, pour l'expo, on a Antoine Garnier, qui était un photographe du bus. Pooch, qui a de son nom, enfin de son petit nom, mais sinon, c'est Mike, son prénom, qui lui était aussi un photographe du bus. D'ailleurs, qui va être là ce soir à l'exposition.
Okay.
Où il a représenté tout un tas de photographies de concerts et c'est, elles sont extrêmement belles et avec tout ce qui caractérise le bus Palladium parce que c'était surtout des photos en noir et blanc et ouais non c'est
exposition
vraiment...
qui est prévue de quand à quand.
Alors donc du 2 juin jusqu'au 12 juin.
Du 2
ah
juin
oui,
jusqu'au 12 juin.
Short.
Donc en fait, il faut se dépêcher.
Vous dépêcher
quoi.
Exactement.
Dès ce soir, hein, vous
dès ce
vous
soir,
dire.
Vous pouvez venir au vernissage, on vous attend. Et au finissage aussi.
Au finissage. Alors, il y a eu des finissages hein, au bus Palladium. On a l'occasion d'en revenir tout à l'heure. Hein, le bus Palladium, alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, hein, parce qu'on n'a pas que des Parisiens aussi qui nous écoutent.
Certes.
On nous écoute de toute la France. Et du coup, le bus Palladium, est-ce que tu peux nous présenter cette salle
ouais.
mythique?
Alors, c'est déjà une salle de concert. Qui a vu beaucoup, beaucoup d'artistes, notamment comme Gainsbourg, les Stones, les Beatles, il y a eu Pete Doherty, donc il y a vraiment... Ça...
Mick Jagger faisait son anniversaire.
Exactement.
Là, pour la... vous dire.
C'est exactement ça. Donc c'est bourré. En fait, ce lieu qui est encore dans son jus, il est bourré d'anecdotes, il est bourré de...
D'histoire.
D'histoire, exactement. Et les murs, en fait, on peut vraiment ressentir ça à l'intérieur. Il y a quelque chose, quand on monte sur scène, c'est vraiment particulier. Moi, je l'ai vu en tant que photographe, en photographiant les concerts, mais aussi en photographiant la scène et le public. Il se passe vraiment quelque chose.
Et c'est un public rock principalement, hein, c'est ça, c'est une salle mythique et c'est aussi une musique mythique, le rock'n'roll.
Exactement, en fait voilà. On peut dire ça, même s'il y a d'autres artistes qui viennent quand même.
Oui, Gloria Gaynor par exemple.
Exactement, puis il y a aussi.
Au fut un temps,
il y a aussi Catherine Ringer, notamment qui était venue pour la fermeture du bus le 2 avril. Mais en ce moment, on joue les prolongations.
La supposée fermeture voilà. de avril.
La supposée fermeture, mais avec qui on joue les prolongations. Et c'est vraiment agréable de pouvoir continuer ça. Tant qu'il y a de la vie, on continue quand même.
Voilà, le lieu a été. Au départ, le lieu est racheté dans les années 60 hein, par deux associés. Et tout d'un coup, il y a un moment donné, il y a Dali qui vient faire un truc chez eux. Hein, il vient faire un buffet à l'eau plate.
C'est ça, Dali, à l'eau plate.
À l'eau plate. Hein.
Ouais.
Je crois que c'est la seule fois au Bus Palladium où tous les mecs ont été à l'eau plate. Et du coup, ça a mis un peu en lumière ce lieu. Et puis ensuite, comme tu nous le disais, hein, Charles, voilà, les Beatles sont venus en représentation au Bus Palladium. Mick Jagger y a fait son anniversaire. Johnny s'y est produit aussi.
Johnny Hallyday, je pense qu'il y a été.
Toi qui es fan de Johnny,
ouais. il y a été au Bus Palladium.
Et voilà, Stone et Chardin s'y sont rencontrés.
Non, mais c'est ça qui est assez fou, quoi, en fait. Et puis, on a aussi un artiste qui vient, on va dire de manière récurrente, qui est Yarol Poupeau, qui était le guitariste donc de Johnny.
De Johnny.
Notamment. Oui, il était au Bus Palladium, c'est ça.
Ouais.
Ça, je sais ça.
Et il y avait un DJ célèbre au Bus Palladium dans les débuts, mais si je vous dis DJ Capri, ça vous dit quelque chose? Capri, c'est fini?
Capri, c'est fini.
Hervé Villard.
DJ Hervé Villard, parce que c'était l'un des premiers DJ du Bus Palladium.
Ah bon, Hervé Villard.
Et oui, il a une vie avant la chanson. C'était DJ. C'était la discothèque à lui tout seul du Bus Palladium dans les débuts. Et c'était Hervé Villard. Donc il y a pas mal d'anecdotes dans ce lieu. Et puis là, on parle de l'ancienne génération, et puis parce qu'il y a eu plusieurs propriétaires aussi, il faut le dire, ça a fermé aussi il fut un temps pendant de nombreuses années, ça a ouvert en 2010 hein.
C'est ça, oui, et sous la direction de Cyril Baudin
qui est le programmateur
mais aussi le directeur artistique du bus et qui est une clé de voûte en fait hein, du bus, on peut le dire comme ça, et sans lui le bus aujourd'hui tel qu'on le voit il n'existerait pas, hein. c'est lui qui
porte le bus sur ses épaules,
même s'il y a une équipe autour, faut être réaliste, mais c'est vrai que c'est quand même la pièce maîtresse du bus. Et puis après il y a aussi tout le staff, parce que toute l'équipe qu'on a entre les barman, les chefs barman qui font aussi leur show, et c'est
il y a un show des chefs barman.
Un show, c'est peut-être le mot peut-être un peu fort, mais ils sont présents
ils sont présents
ils font partie du spectacle.
Exactement,
ils font partie du spectacle, voilà, un peu plus haut, ils lèvent la patte, les filles, les mecs au Bus Palladium vous servent des coups avec leur show à eux.
C'est ça.
Et du coup, c'est une équipe de combien de personnes aujourd'hui?
Alors, au total, il y a à peu près, approximativement, je dirais, une quinzaine de personnes.
Très bien.
Parce que vous avez une salle, en fait, en haut, qui va être plus une salle... Alors, on peut avoir des concerts acoustiques, mais aussi, c'est là aussi, il va y avoir des DJ, mais une musique plus généraliste, surtout pour le soir, où ça va aller de... On va dire ça ouvre vers 23h30 jusqu'à 4h30, 5h du matin.
D'accord, donc c'est un peu boîte.
Après, ça s'enforme un peu en boîte. Même si au départ, vous commencez par les concerts dans la salle de concert en bas, après, vous avez la possibilité de monter en haut. Et puis voilà, il y a toutes les anecdotes qui se passent en haut.
Oui, il a dû.
On veut en savoir plus.
Stone a chopé Chardin.
Combien de fous au maximum? Combien de fous au maximum dans la salle?
Dans la salle.
Elle peut accueillir combien de personnes là?
Normalement, si je dis pas, alors je veux pas dire de
2500.
Bêtises.
2500.
Non. Je pense qu'on doit être aux alentours de. Je dis pas de bêtises. Hein. Là, c'est vraiment.
À peu près. T'inquiète.
Moi, je verrais 300, 400. Ça peut facilement faire 300 personnes en fait. Ouais.
Ouais, c'est plutôt énorme. Et la salle de concert, du coup ?
C'est ça, la salle de concert, c'est plutôt 300 personnes. Voilà, par contre, au premier étage, là, c'est beaucoup moins. Je pense qu'on peut avoir facilement 80, 120. Ouais.
80 à 120 personnes là-haut qui font l'after.
C'est plus intime.
L'after concert. Il y a combien de concerts actuellement ? Parce que sachant que a priori, ça tient la route, ça devait être fermé, ça ne l'est pas. Mais aujourd'hui, vous organisez combien d'événements par semaine ?
Alors, on organise 3 concerts à chaque soir, donc le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir, mais il y a aussi d'autres concerts qui étaient aussi le mercredi. C'est variable.
Et les infos, on les récupère sur les réseaux ?
On les récupère sur les réseaux, donc du Bus Palladium sur leur Facebook et sur leur Instagram.
Ok.
Et là, donc, vous avez tous les artistes qui sont présentés.
Voilà. Et puis, c'est aussi un lieu de reformation. Hein. Ces téléphones s'y est reformé un peu là-bas. Enfin, à peu près, on va dire. Voilà, il manquait un élément de téléphone.
Ouais, quand même.
Voilà, FFF aussi. Il y a des buffs incroyables, semble-t-il. Hein.
C'est ça.
T'en as été témoin ?
Alors, je n'en ai pas été témoin de ça. Par contre, il y a eu un des personnages de FFF qui vient souvent. Il vient régulièrement. Quoi. On en voit. Et même d'ailleurs, pour la fermeture du... entre guillemets
la clôture le 2 avril
la première clôture. Il y a eu vraiment beaucoup de d'artistes, notamment comme Catherine Ringer, mais aussi d'ailleurs le batteur de Motorhead était venu aussi.
Le groupe Motorhead c'est incroyable.
Donc non, il y a vraiment eu pas mal de monde ce soir-là. Et puis c'était animé par Nicolas Hunemann, qui est aussi un élément du Bus en lui-même parce qu'il organise les karaoké en fait là-bas.
Ok.
Et ça, c'est vrai que ça emmène pas mal de gens aussi en fait.
Voilà, donc vous l'aurez compris, il y a toute une équipe. Le lieu existe encore. Moi, ce que je te propose, c'est d'écouter un petit téléphone.
Ouais.
Voilà, retour aux sources.
Pour se remettre
c'est pas possible.
Et le restaurant, il marche toujours. Le restaurant.
Comment ?
Le restaurant marche toujours.
Alors le restaurant fonctionne toujours. Ouais.
Ah bah oui, mais
c'est important.
Donc on peut dîner.
Alors c'est plus délicat parce qu'en fait ils faisaient ça souvent le jeudi soir.
Il faut bien réserver une table.
Mais c'était plus ce qu'on appelait la cantoche en fait.
Ouais, la cantoche.
Mais ça c'était le jeudi soir. Voilà, pas les autres soirs.
Et toi, quels sont tes moments à toi là-bas ?
Mais moi,
qu'est-ce
moi,
que
là-bas.
Alors, tu fais des photos.
Fais une sélection parce qu'il doit y en avoir
mais,
tellement.
Mais je sais pas, il y a dû avoir une ou deux anecdotes, des choses qui se sont passées là-bas. T'as vu des trucs incroyables.
J'ai vu des choses assez drôles, même assez atypiques. Mais après, bon, je pense que il est peut-être tôt pour parler de tout ça.
Non, mais justement, ça, c'est ça qui nous intéresse.
Non, mais après, je pense, voilà, on pouvait retrouver ça en fait au Bus. C'est un peu cette folie, notamment moi quand je faisais des photos où d'un coup vous avez, trois, quatre filles qui arrivent, qui soulèvent leur t-shirt et voilà, qui sont seins à l'air, et donc là on fait une photo qui est un peu iconique,
okay.
Surtout quand il y a les groupes ou ce genre de choses.
Est-ce que c'est une photo qu'on retrouve
à l'expo
à l'expo on va retrouver d'autres photos qui sont un peu dans cet esprit-là, notamment
d'accord.
En fait où j'ai revisité la photo des donc l'album des Strokes, VCD.
Okay.
Qui est assez connu avec ses fesses.
Ok.
Et elle est là-bas.
C'est revisité.
C'est
très
revisité.
Bien. On aura l'occasion de voir des fesses à cette exposition. On vous y invite, hein, sérieusement. Il n'y a pas que des fesses d'ailleurs.
Non,
parce que c'est un mythe aussi. Voilà, le Bus Palladium. Vous aurez l'occasion de découvrir
mythique.
Ça très très rapidement. Hein. Et puis lieu
rapidement.
Ne se meurt pas non plus. Hein, il faut le préciser. Est-ce qu'il y a une résistance qui se monte, qui se crée quand même ? Parce qu'il y a, comme on dit, il y a une première clôture, mais derrière, alors on croit savoir que le bail est terminé et du coup, le propriétaire souhaitait en faire un hôtel. Tu me dis si je me trompe.
C'est vrai.
Mais du coup, pour l'instant, l'hôtellerie à Paris, c'est pas le top. Et du coup, voilà, en attendant qu'un hôtel se monte, le Bus Palladium vit encore.
C'est exactement, on peut dire ça.
Et d'ailleurs, je sais pas, il n'y a pas une souscription qui va être mise en ligne ou des choses qui vont
une
se monter pour sauver le lieu.
Sauvons
parce que
le Bus.
Les lieux se meurent à Paris. Hein. On pensait au Lido aussi. Hein, le Lido,
le Lido
qui va fermer, qui va être revendu aussi.
Le Lido
qui représente la folie parisienne.
Ouais.
Le Bus Palladium au même titre, hein, ça représente plus que Paris, ça représente le
rock'n'roll.
Et donc, c'est vrai que c'est aussi à un moment donné, il va falloir s'enlever les doigts des fesses et aller défendre ces lieux-là, parce que ça devrait être d'intérêt public.
Bien sûr.
Donc voilà, s'il y a un petit message à donner, c'est celui-ci.
Sauvons les lieux de fête.
Est-ce qu'on est prêt du côté de la régie?
On a téléphone.
Bon, on s'écoute un petit téléphone.
Allez,
après, on va revenir sur ton activité principale, la photo. Enfin, une de tes activités, je m'imagine.
Dynamique Radio. Toutes les stars de la musique.
Allez, toutes les stars de la musique sur Dynamique Radio et aussi au Bus Palladium.
Et aussi au Bus Palladium.
Voilà, parce qu'il y avait du lourd, comme vous l'avez compris. Hein. Mick Jagger a fait son anniversaire. Il n'a pas fait, à mon avis, que son anniversaire. Les Beatles s'y sont produits. Hein. Ça, c'était dans les années 60. Voilà, c'était les débuts du rock'n'roll, hein, on peut le dire, hein, comme ça. C'est...
Ouais,
et puis, il y avait
débuts,
une spécificité au Bus Palladium. En fait, pourquoi le Bus Palladium? Est-ce que quelqu'un autour de la table le sait?
Eh ben non.
Est-ce que Charles, il sait pourquoi ça s'appelle le Bus Palladium? Alors Michel, attends, il y a une proposition.
Palladium, c'est la marque d'une paire de tennis.
Peut-être.
Oh. Il y a des tennis qui s'appellent Palladium.
Mais pourquoi le bus?
Ça n'a rien à voir. Peut-être.
Est-ce que vous savez pourquoi le bus?
Non.
Est-ce que Charles, il saura nous l'expliquer?
Non plus.
En fait, les deux mecs. Alors, avant le Bus Palladium, c'était un endroit un peu select, tu vois, costume, cravate, un peu.
C'est les mods en fait.
Ah?
C'était avec les mods en fait.
C'était avec les mods, et surtout, en fait, le mec qui a créé le Bus Palladium avec son associé ont eu la super idée d'aller chercher les gens en banlieue dans les bus. Et ramener les gens de banlieue dans le bus pour aller dans cette boîte de nuit. Et en fait, alors Michel, il le sait. Michel me fait ça. Michel, il voulait intervenir parce qu'il le sait peut-être.
Eh ben moi, j'étais au Bus Palladium.
Oui, c'est bon,
t'entends. Au Bus Palladium, quand il y avait quelqu'un de célèbre.
Dali.
Et que ça se bagarrait, eux deux, avec le Cirque Medrano.
C'était qui alors?
C'était évidemment Antoine.
Antoine,
le premier au Bus Palladium.
Ben d'ailleurs, il y a une chance.
Et j'y étais.
Ah, bah,
oui, parce qu'il s'était un peu accroché avec Johnny.
Exactement.
Et à un moment donné,
les cheveux coupés.
Ouais. Et Johnny l'avait répliqué. Ouais, ouais. C'est une autre histoire que de lui faire rentrer.
C'est toute une histoire. Ça a été un cabaret.
Il voulait faire rentrer Johnny à un cage à Medrano.
Voilà, les garçons. Et d'ailleurs, il l'a chanté parce qu'il y a tout un hommage. Pourquoi c'est devenu célèbre le Bus Palladium? Donc, il y avait cette histoire de bus où il est allé chercher la banlieue, en fait, à Paris, à travers un bus qui faisait toute la banlieue. Du coup, les gens rentraient dans les bus et venaient s'amuser. Donc, il y avait toutes les classes sociales et c'était un peu sympa et fun, quoi. Et du coup, c'est devenu connu parce que les artistes, comme Antoine notamment, ont chanté.
Oui, Antoine,
le Bus Palladium, il est devenu mythique parce que les chanteurs comme Gainsbourg, comme Antoine, comme d'autres, ont parlé du Bus Palladium dans leurs chansons. Et c'est devenu très très connu grâce à ça. Depuis, il y a eu un film aussi qui s'appelle Bus Palladium. Je sais pas si tu l'as vu. Tu l'as vu, tu nous en
diras. Sur le Bus Palladium
Dont le titre est Bus Palladium. Hein,
ouais.
C'est
après,
pas sur le bus.
C'est
pas le mieux. C'est pas ce qui représente l'époque, peut-être le mieux. Mais de toute manière, bref, en l'occurrence, le Bus Palladium est devenu mythique parce que les chanteurs l'ont chanté, en fait, tout simplement. Et ça, c'est super important. Bon, on est avec notre ami Charles. Charles Bayonne, qui est avec nous et qui est photographe de profession. Tu voulais rajouter un truc, parce qu'on est là pour l'expo. D'ailleurs, tu vas bientôt y aller, parce qu'il est 17h23. Et du coup, un mot sur l'expo, qu'est-ce qu'on pourrait y retrouver?
Alors, on va.
Raconte-nous. Qui y a déjà?
Qui
expose?
Il y a beaucoup de monde. En fait, on est 8 au total. Donc ça fait pas mal d'artistes. Notamment, il y aura aussi Cyril Baudin qui sera présent.
Ok, d'accord.
Et qui présente des œuvres qui sont des œuvres mythiques du bus. Notamment, vous allez pouvoir retrouver le bus d'acier qui appartenait à Bachfung.
Ouais.
Il y a une guitare signée de Mathieu Chédid. Donc il y a vraiment pas mal d'objets assez cultes que vous allez pouvoir retrouver. Et puis notamment aussi les autres artistes avec lesquels j'ai travaillé, on a collaboré sur cette expo, comme Sacha Bokobza, qui elle a été l'initiatrice, on va dire, on peut dire même que c'est l'initiatrice de la première exposition au bus qui avait lieu le 23 avril dans les murs du bus. Et on a pu avoir cette galerie grâce à un autre artiste qui connaissait le galériste, donc c'est Alexandre Delacroix, qui est un graphiste vraiment de génie. On peut le dire. Hein, je passe pas mes mots. C'est vraiment quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Et puis vous allez vous retrouver aussi donc Alexandre lui revisite des peintures de la peinture flamande avec des éléments plus récents du bus Palladium. Puis vous avez aussi Antoine Garnier qui était l'un des premiers photographes du bus Palladium à la reprise de avec Cyril, qui lui faisait des polaroïdes. Et, okay. et à un moment, il y avait
qui
des
sont mythiques d'ailleurs. Et qui sont devenus mythiques, ces polaroïdes.
Ils sont devenus mythiques, ouais. Et il avait rempli les murs comme ça de polaroïdes. Et c'était complètement fou de voir ce photographe. Et qui aujourd'hui est un artiste pluridisciplinaire. Et qui travaille, qui nous présente vraiment des très très jolies choses, notamment comme un médiator en bois avec. Et d'autres affiches en fait aussi qu'il a dessiné lui-même. Et puis vous avez aussi donc Margot Hivernel qui a été la graphiste aussi du bus, qui a fait beaucoup de pochettes pour le bus, qui a fait vraiment des choses très 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 chouettes. Vous avez aussi Kova qui fait des crobats, donc pas mal de dessins vraiment sur les concerts qui sont vraiment pris sur le vif. Et puis Pouch, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ouais. qui est un autre photographe du bus qui fait des photos de concert assez folles, quoi, et avec ces fameux noirs et blancs qui ont vraiment une âme et puis où ils dégagent quelque chose.
D'accord, donc on redonne les coordonnées de la galerie.
Donc 88 rue des Rosiers.
Rue des Rosiers à Saint-Ouen.
À Saint-Ouen, exactement. Galerie Amarrage.
Voilà, bah vous avez tout. Voilà, vous avez
et c'est
tout.
Une expo pluridisciplinaire, comme vous l'aurez compris.
Alors Charles, en dehors de l'expo, toi t'es photographe, hein,
exactement,
c'est ça ?
Exactement, ouais.
Alors c'est quoi ton métier ? Qu'est-ce que tu fais dans la photo ?
Alors dans la photo, c'est assez vaste, puisque j'ai travaillé pour le bus Palladium, donc je faisais de la photographie de concert, et aussi, entre guillemets, on pourrait dire de soirée, où j'étais plus un portraitiste que vraiment de la photographie de soirée. J'avais vraiment essayé de mettre ma patte, parce qu'à la base, je suis photographe dans la mode.
Ok.
Et c'est pour cette raison que j'avais essayé de mêler à la fois la photographie de concert et la photo de mode, et de lier les deux pour que ça soit plus une photo de on va dire de soirée classique. Voilà, c'était vraiment mon but, en
ton
tout cas
objectif,
avec, mon objectif,
ouais,
avec le bus.
Ta touch,
ouais. Ouais, exactement. Et puis à côté, je fais d'autres expositions en fait aussi en galerie avec là on est plus sur de l'architecture, donc ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai que je dirais que mon spectre en photo est plutôt large.
Ok, et tu t'adaptes à la clientèle. Ou à tes envies.
Putain, mes envies, parce qu'à la clientèle, ouais, ce sera un peu moche, ouais. mais effectivement, non, je peux dire que c'est pas que je suis un touche-à-tout, mais c'est vrai que j'aime bien explorer différents univers en photo, et je crois que c'est dommage de se limiter en tout cas.
Alors,
ta passion en photo actuellement, c'est quoi?
Ma passion en photo actuellement, elle est vraiment tournée finalement sur les portraits. Et puis aussi un autre procédé que je travaille beaucoup récemment, c'est le procédé lenticulaire, où en fait quand vous bougez, la photo bouge avec vous. Donc c'est une forme de trois dimensions sur du plan.
Ce qu'on retrouve sur certains smartphones.
Exactement. Et ça, c'était une expo qui était partie à Dubaï et puis qui avait été exposée aussi pendant au Carrousel du Louvre pendant la FIAC.
Du 3D, quoi.
Une 3D sur du plan.
Voilà, vous l'aurez compris, notre invité.
Et sinon, tu fais pas des prises de vue cinématographiques
Alors ça, c'est une autre part de mon travail, puisque je collabore maintenant et je travaille avec le label Compact Records,
oui.
Où je vais réaliser des clips avec eux.
Là,
je suis dans la réalisation de clips, donc c'est vraiment la continuité de la photographie.
Les photos de pochettes.
Et les photos de pochettes, les photos des artistes aussi.
Bah,
donc
bien
c'est
sûr,
vrai que, voilà.
Vous l'aurez compris. Il touche à tout, mais c'est sa passion avant tout, c'est la musique notamment. Merci à toi d'être passé.
C'était très agréable de vous voir, et merci à vous de m'avoir reçu et d'avoir pu parler du bus et surtout de notre expo ce soir aux Galeries Amarrage.
Et en tous les cas, on va aller faire un tour après l'émission.
Absolument. Nous,
j'espère que vous ne fermez pas trop tôt.
Non,
vous allez
nous attendre.
On va fermer tard et je pense qu'on risque tous de finir après au bus Palladium.
D'accord,
ok. Fort probable.
Est-ce que tu sais que le bus Palladium en 1907, qu'est-ce qu'il faisait ? Qu'est-ce qui se passait au bus Palladium en 1907 ?
Alors là, encore autre code.
Un théâtre, le théâtre du cinématographe.
Voilà. Et bien vous l'aurez compris, c'était autre chose avant
ça
le bus.
Ça rejoint tes prises de vue, voilà.
Exactement.
Dynamique Radio,
merci.
On te dit au revoir.
Au revoir.
Et on va finir avec Trust Antisocial sur Dynamique Radio.
Yeah.
Restez avec nous. Voilà, on vient avec toute l'équipe là. Michel le Rocker. On a J. Warner. Ça va, J. Warner ?
Ça va.
On a Isa. On a Père Henri aussi.
Ouais,
Michel Lebeau et Stan. Voilà, merci. Restez avec nous.
Dynamique Radio, Dynamique Radio, Dynamique Radio, c'est la radio pour tous.
Dynamique Radio, on est de retour à l'antenne, vous l'aurez compris, hein, c'est Rock'n'Roll, ouais, Rock'n'Roll cet après-midi sur Dynamique Radio. Et oui, il y a une super expo à aller voir, hein, autour de l'histoire du bus Palladium. Voilà, c'était Charles Bayonne qui est passé nous voir en photographe de son état. Voilà, Trust, vous en écoutez Trust Téléphone. Et ouais, on les a passés parce que c'était des récurrents.
Ouais.
Voilà, il y a une belle expo, il y a un super vernissage. Et puis on salue Double D aussi,
ouais,
qui nous écoute,
qui nous
Double
écoute
D,
la scène
qui est un
musicale,
fan de rock'n'roll parce que lui jouait de la batterie. Les garçons, ils jouaient de la batterie. Dynamique Radio, on se retrouve dans quelques instants avec toute la team Isa, Stan, G. Warner, Michel Lebeau, Michel Le Rocker, Père Henri, on est tous là. Et puis on vous annoncera aussi le menu de cette dernière émission de demain. Vous allez kiffer.
Demandez
allez,
le menu,
restez,
demandez le programme.
Restez en direct sur Dynamique Radio, à tout de suite.
Dynamique Radio, toutes les stars de la musique.
Dynamique Radio, t'es pas relou, hein.
Non, Coca, ouais.
T'es pas relou.
Merci,
Coca,
mon père Coca, Henri qui est d'une générosité incroyable. Il a offert à toute l'équipe le Coca, le Lola, le Lipton. Est-ce qu'il s'est pris quelque chose, au moins?
Il n'y a plus de Coca.
Est-ce que tu t'es pris quelque chose?
Sinon, on est à l'antenne.
Au moins.
Ah, deux Coca pour le prix d'un. Voilà, très bien. Père Henri au Coca, je peux vous dire.
Original.
Bah, l'eau, on va la garder pour... Olé. Voilà, J. Warner qui assure.
Chanteuse.
Voilà, si vous saviez, on lui envoie des
Henri,
bouteilles alors qu'il est chargé de monter les tranches.
C'est une bonne nouvelle, non, viens avec nous. Bus Palladium, il sort ce soir.
Non, mais il est solide.
J. Warner est très très solide.
Ah, mais
et il a confiance en lui, et je restaure sa confiance.
Si la bouteille d'eau éclate sur la console, on est mal.
On est mal, on a deux mains à faire.
J'ai eu confiance en toi. Et je t'ai restauré ta confiance parce que tu doutais de ta capacité. Et là, tu étais capable, mon frère.
Ouais.
Voilà, capable, mon frère. Bon, bah, vous l'avez compris, belle soirée au bus Palladium ce soir.
Ah, bah là, je pense qu'on va bien
tout.
S'amuser
hein,
ce
on
soir.
On vous dit pas
c'est
tout à
c'est au
l'antenne.
Bus Palladium, mais attends, l'adresse, c'est pas Saint-Ouen, le bus Palladium.
C'est rue Fontaine.
C'est rue Fontaine.
Oui, mais on va au vernissage
on
à Saint-Ouen.
Au vernissage.
Ah, le vernissage, c'est
et après, du vernissage, on va en bus au bus Palladium. On finit au bus Palladium. Ah, ça va être mythique.
En bus Palladium.
Mythique soirée. Merci Charles.
Ok. Voilà. Bah,
voilà, je me bois un petit verre de Coca. Je me restaure. Il fait très chaud, vous l'aurez compris. On est en direct sur Dynamique Radio. On va vous faire les anniversaires de stars, Isa.
Mais absolument. Ouais. Fred,
allez,
avec plaisir.
Jingle. Alors, qui fête son anniversaire
Alors,
de star aujourd'hui?
Qui fête son anniversaire aujourd'hui? Si je vous dis journaliste, femme.
Mélissa Torio.
Non. Française.
Claire Chazal.
Non.
Est-ce que c'est chaud, pas chaud, tiède, pas tiède, froid, pas froid?
C'est plutôt tiède compte tenu de l'âge, on va dire.
Donc, est-ce qu'elle animait la cuisine?
Allez, moi je vais dire Audrey Crespo-Mara comme ça.
Non.
Elle est jeune, Catherine Laborde?
Non.
Simone Veil?
Ah, comment
non,
elle s'appelle?
C'est
elle qui est sur France 2 là.
François Giroud?
Non.
mince, comment elle s'appelle celle qui est sur France 2? J'ai un trou de mémoire.
Alors, un autre
non,
indice.
Non, je vais vous dire BFM TV.
Ruth Krief.
Non.
Fanny Agostini.
Non.
Sophie Lapix. Sophie Lapix.
Mais non, Sophie Lapix, elle n'est pas sur BFM.
Elle n'est pas,
pas sur
BFM. celle qui fait le matin, là, le midi.
Apolline de Malherbe.
Bravo.
Bravo.
Ah ouais, Apolline de Malherbe.
Bravo, Julien. Fred, t'aurais dû trouver parce que nous deux, on l'écoute tous les matins.
Tous les matins. D'ailleurs, j'étais avec le patron.
Et moi, je regarde très rarement BFM. Donc
on était avec le patron d'RMC tout à l'heure et on lui a dit complètement qu'on. Moi, c'est ce que j'écoutais de 6h30 à
9h. Ah, mais grave, RMC. T'aurais dû lui dire la même chose.
Oui, oui, j'ai pensé aussi.
Mes collègues aussi.
Voilà, de 6h30, vous savez ce qu'on écoute.
Et il t'a pas dit que c'était
corporate.
L'anniversaire d'Apolline
Non.
Ouais,
elle était à l'antenne ce matin.
Et eh ben pour ses 42 ans, elle était à l'antenne
ans
ce matin.
42
absolument, elle a 42
non, elle en fait 50.
Elle va souffler ma bougie.
Tu vas faire un tour de la foire.
Allez,
ensuite,
tu fais un tour. Ouais. Voilà, maintenant c'est lui qu'on expulse. Allez, dehors. Va faire un tour.
C'est que Noane, si je vous dis cuisinière.
Ah, tu vois, t'étais pas loin, Michel Lebeau.
Oui, elle est là.
Ah, Maïté.
Ah, ah bah voilà.
Ah,
ah
mais bah il triche aussi.
J'ai même pas. Ah oui.
À l'école c'était pareil ou chez les petits bonhommes à la croix de bois.
Il triche pas là, il triche pas.
À la croix de bois. Depuis 83 à 97.
Je m'en doutais que t'allais me faire.
Elle est
du Gers.
Mais Michel,
elle est du Gers.
À la croix. Ah. Et chez les petits chanteurs à la croix de bois, tu faisais pareil. Tu trichais aussi.
C'est pas de la triche, ça. Ah, il va plus vite. Il va vite. Il est rapide.
Non, j'étais au Sacré-Cœur. J'étais pas avec les petits chanteurs.
Ah oui, t'étais au Sacré-Cœur.
Maïté, qui fête ses 84 ans aujourd'hui.
84 ans, Michel Maïté.
Qui était très célèbre.
Pour exploser les langoustes et les anguilles.
Pour frapper les anguilles, chose qui ne se passerait plus du tout à la télé.
Ah bah non, aujourd'hui, elle serait interdite d'antenne.
Carrément.
Elle serait même en prison. Maïté, en prison.
Elle faisait la cuisine des mousquetaires de 83 à 87.
Mais tu sais que maintenant, pour acheter un poisson, t'es obligé d'aller leur faire tester l'eau de ton aquarium.
Et qu'est-ce qu'elle devient, Maïté ?
Elle a 84 ans.
Ouais.
Bah, elle est en retraite.
Elle a décidé de s'éloigner de la télé.
Ouais.
Bah renseigne-toi. Bah renseigne-toi.
Elle était, elle habitait le Gers, je crois, non ?
Le Gers.
Oui.
Le Gers.
Moi j'ai vu ça.
Maintenant
sa
elle joue avec le
zboob
de son mari. Allez, tiens, bing.
J'espère qu'elle fait pas la même chose avec le zboob de son mari qu'avec les autres.
J'ai vu sa petite fille il y a quelques temps dans l'émission de sur France 2 là de.
Oui.
De Faustine Bollaert, voilà et ouais. Et donc elle disait que voilà sa grand-mère avait décidé de s'éloigner de la télé.
De la télé. C'est vrai que c'est mythique. Hein. Voilà, il y a eu Gay-Lux et Maïté.
Maïté, la cuisine des mousquetaires.
Il y a eu, comment s'appelait la dame là, qui l'avait du sol au plafond là.
Qui l'avait du sol au plafond. Bah écoute, tu vas aller chercher.
Et puis pendant ce temps, on va faire le troisième.
Voilà, hein. Troisième anniversaire de Star.
Alors, si je vous dis acteur, comédien, réalisateur et scénariste.
Beaucoup
donc, de
choses.
C'est un homme évidemment, puisque j'ai dit comédien.
Franck
il est
Dubosc.
Français.
Franck Dubosc.
Non.
Gad Elmaleh. Danny Boone.
Alors je vais commencer par les trucs entre guillemets les moins connus parce que si je vous dis tout de suite les trucs les plus connus vous allez trouver tout de suite. Sœur-Thérèse.com.
À Martin Lamotte.
Oh,
wow, bah, pas mal.
C'est connu, sœur-thérèse.com. Tu dis les moins connus, excuse-moi.
Bah oui, parce qu'après,
Martin Lamotte,
après, j'allais partir sur nos chiens voisins,
bah oui, évidemment.
Ou les bronzés, ou le Père Noël est une ordure. Bah,
finalement, il est même presque plus connu dans sœur-thérèse.com. Il a quand même fait plus. Enfin, c'est vrai que les bronzés,
si
oui.
Si je dis collabore avec la troupe du Splendide, et ouais, si je dis ouais, Papy ouais. fait de la résistance, et les bronzés, et le Père Noël est une ordure, t'aurais trouvé aussi tout de suite.
Okay.
Et ben c'est Martin Lamotte qui a Lamotte. 75 ans aujourd'hui.
D'accord, très bien.
Voilà.
C'est noté, merci.
C'est tout pour aujourd'hui.
Et ben merci
c'est tout
à vous.
Pour le moment.
Bah...
Allez, dans quelques instants, nous aurons Père Henri qui va nous parler de.
Tout ce que vous voulez.
Tout.
Je suis. Je réponds à toutes les questions.
À toutes les questions. On va parler d'un.
Est-ce que le volcan.
Je vais quand même poser des questions.
Est-ce que le volcan.
Alors, par contre, on aimerait bien avoir la suite. Est-ce que tu as regardé les sources que t'as données, Michael?
Les sources, je les ai regardées. Elles sont correctes. Mais encore une fois, il y a diversité de sources. Hein. Et heureusement qu'on a une diversité de sources. Sinon. Je pense qu'on n'aurait pas la vérité.
C'est vrai qu'il y a la source Evian, il y a la source Volvic.
Exactement. Tout le monde fait rire.
Ceci l'a fait pas au moins une fois dans l'émission. Il est fatigué.
C'est pas trop, non, mais c'est pas trop. Là, il y a la source Coca, mais c'est bon.
Ouais, nous, c'est la source Cola. Là. Nous, c'est au Cola qu'on fonctionne.
Enlevez-le de mes pattes, là, il me fait des bêtises.
Ouais, mais il fait exprès.
Mais ouais.
C'est incroyable. Mais...
C'est Stan qui est à moitié à la réelle, donc il faut se
battre. Tout à l'heure, sans faire exprès, il a appuyé sur un bouton, ça nous a lancé le jingle anniversaire, voilà.
Ah bah bravo.
Ouais.
Tout simplement. Mais est-ce que vous pouvez envoyer la musique ?
Eh bah c'est parti. Attends,
allez,
vas-y.
On revient dans quelques instants avec Pierre Henri.
Non, c'est pas censé être ça, c'est
avec
ça plutôt.
Pierre-Henri.
Dynamique Radio, nous sommes en direct à la Foire du Trône hein, chez Vincent. Et oui, hein, donc nous avons eu tout à l'heure notre ami Charles qui est venu nous présenter le vernissage qui aura lieu ce soir. Hein. D'ailleurs, je vous invite tous, chers auditeurs et auditrices, à venir voir le super vernissage du Bus Palladium. Et puis on est avec toute l'équipe hein, chez Vincent, il faut le répéter. Hein, on est avec notre
ben
ami
oui.
Henri.
Voilà, qu'on salue. Mm-hmm. Ouais, faut lui
Michel
Legault
qui va nous parler, qui va nous dire deux mots sur l'association Michel. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton association?
Alors déjà...
On a fait une belle récolte la semaine
déjà,
dernière.
Déjà, je remercie les forains.
Ouais, merci
déjà,
à eux.
Déjà,
ouais,
une merci partie des forains, forains ouais. Parce que
oui, on a pas ouais.
Il y a encore du chemin demain.
Ouais. Oui, on repart demain. Hein.
Et puis je vous annonce une nouvelle, c'est que à partir du 2 septembre, nous serons sur le parvis de l'hôtel de ville.
Très bien. Wow.
Pour le forum des associations pour les 70
formidable,
ans.
Formidable.
Voilà, du forum.
D'accord. Okay. Bon, bah, super.
Donc, je suis en train de remplir le papier pour avoir la place.
Bon, bah, très
et
bien.
Et faire le spectacle.
Et faire le spectacle.
À l'hôtel de ville.
Bah, on ira te voir avec grand plaisir.
Bah, tu seras bien obligé d'être là.
Ah, je lis pas, Michel, tu sais.
Avec un micro baladeur.
Ah, baladeur, alors... tant que c'est le micro, ça va.
C'est pas la main.
C'est pas la main.
C'est pas les mains.
Non, mais ce que je veux dire aussi, c'est que je cherche des bénévoles pour nous accompagner dans des grandes opérations comme ça. Parce que un jour après, on va faire la récolte des fonds pour qu'on continue notre action. Donc, je vais chercher des blousons et qu'on va faire imprimer les cœurs des clowns. Et chacun aura son blouson pour tourner dans Paris.
Voilà, donc si vous... bah, on peut t'applaudir déjà. Bravo. Parce que voilà. Hein.
Voilà et la puis, nouvelle.
Et puis en préparation d'un grand gala aussi.
Et le hein, grand gala, bah, il faut qu'on fasse la réunion au plus vite.
Voilà, vous l'aurez compris.
Pour les sponsors et tout ce qui s'ensuit.
Le gala au Cirque d'Hiver.
Et prévenir
voilà. Le Cirque d'Hiver
les
met à disposition le lieu
alors,
pour un gala gracieusement.
Faut que j'explique exactement
donc
comment ça va se passer.
C'est un beau plateau
ce qui va se passer, c'est que le repas qu'il va y avoir, le dîner, le buffet, tout ce, comme on veut l'appeler, il sera évidemment réservé aux personnalités qui nous soutiennent. Mais le cirque, ça sera les enfants malades et les personnes âgées qui seront là avec la modique somme de 20 euros par place. Et les loges sera beaucoup plus élevée pour les artistes et les gens qui viendront. Tout ça, évidemment, pour reprendre la tournée des hôpitaux dans toute la France, en Suisse et évidemment au Luxembourg.
Voilà, vous l'aurez compris, multi.
Et on repart dans tous les établissements qu'on
mais
a fait
énergie,
pendant 30
mais à 80,
ans.
Mais à 80 ans, presque 80 voilà. Ans. Mais comment tu fais, Michel?
De faire le clown?
Bah oui, non. Si
faire
je,
le clown, ça c'est jeune.
Voilà. Et on peut, ce que je veux dire, on peut être gravement malade,
ouais.
Comme
en
moi
plus, ouais.
Et mon partenaire.
T'es gravement c'est, malade.
Mais ouais. Quand on voit ce qu'on voit, par exemple, à Berck-sur-Mer, à la Fondation Callot ou à l'hôpital maritime, vous aurez compris qu'on ne doit pas se plaindre quand on est un grave malade.
Ouais, je m'imagine.
Mais
voilà.
Michel, il sera comme la reine d'Angleterre à 91, 16 ans, il sera encore là.
Bah, on lui souhaite.
Mais si ouais. Je tiens le choc,
mais
je continuerai dans ces cas-là.
Voilà, il continuera.
Bien sûr.
Peut-être pas à conduire, mais je continuerai à faire le clown.
Bah, conduire, ouais, Michel.
Bah, on sait pas.
Bah, s'ils se sentent capables, pourquoi
voilà.
Pas
pourquoi pas.
Bon,
pourquoi
pas.
Oh, oui, mais avec
tant
les gouvernements
capable,
qui passent.
Après, Michel,
à
tu sais.
T'as plus le droit de travailler bientôt.
Michel,
c'est pas faux.
De toute façon, dès que tu sais conduire sur Paris, tu peux conduire partout. Donc, après, si tu sais plus conduire sur Paris, tu peux conduire. Tu peux
ouais,
conduire
attends,
en province.
Il n'y aura plus de voitures dans quelques années dans Paris.
Ah, bah non. Alors, moi, on vous le dit à la vitesse.
Et on a un beau jardin sur le périph. Ça, c'est une honte.
Oh, moi, je sais pas.
Là, je commence à aller.
Gueule, ça y est, gueule. Mais écoute, c'est non, toi non, qui seras sur le parvis de l'hôtel de ville.
Le principal,
gueule pas trop quand même. Parce que...
le principal, c'est qu'on ait des dons pour continuer.
Voilà,
et
parce
aussi
que si
les
Madame
adhérents.
Hidalgo te
ça,
met une petite subvention.
Michel aime beaucoup Madame Michel, Hidalgo.
Mais ce qui est important, c'est les enfants dans l'hôpital qui sont
oui,
heureux.
T'as
c'est,
raison.
C'est le bonheur des enfants.
Il
n'y
a pas que les enfants. Il y a pas
des personnes
les
âgées en gériatrie.
Des personnes âgées aussi, bah oui.
Et les accidentés de la vie.
Et les accidentés de la vie
bien
aussi.
Bien sûr.
Ah, automatique.
Voilà, ah, faire de belles vrai. Actions dans le milieu hospitalier.
Et alors, c'est pourquoi je rebondis sur les accidentés de la vie.
Rebondis.
C'est la question, c'est qu'est-ce qui compte.
Ils sont déjà accidentés, on ne rebondit pas trop.
Je dirais dans le code de la route. Est-ce que, effectivement, c'est préserver les accidents, ne plus avoir d'accidentés? Est-ce que c'est ne plus avoir d'accidentés ou est-ce que c'est, de votre point de vue, autre chose? Quand vous regardez l'application, je dirais, du code de la route par l'administration, par la police, par la gendarmerie, quel est l'objectif actuel, visible, pour vous, quand vous faites arrêter?
Quand on se fait arrêter?
Oui.
On
vous arrête
pourquoi?
Oui. Mais est-ce que tu as mis la sécurité en jeu? Est-ce que t'as...
Non, c'est pour un but pécunier.
Par exemple.
C'est une récolte de
c'est
dons.
C'est un raquetage.
Non, mais la question se pose, c'est vrai.
C'est
la question
se pose,
est-ce que la finalité...
c'est par sécurité.
Est-ce que la finalité, c'est effectivement le bonheur des gens, le bonheur des citoyens, la sécurité des citoyens?
Non.
Ou est-ce que c'est autre chose?
C'est, bah, la volonté de, c'est la volonté de sanctionner.
Eh ben malheureusement, oui.
Non.
Si, oh bah, c'est un ancien gendarme.
Attention, hein.
Non. Tu peux pas dire la volonté de sanctionner. T'as des gendarmes qui sont spécialisés à l'escadron de sécurité routière, qui sont là pour faire de la prévention de la sécurité routière avant tout. Et quand la prévention ne suffit pas, on fait de la répression.
Quand font-ils de la prévention?
Mais tout le temps, quand ils sont sur les terrains et qu'ils se font voir par les automobilistes, ça s'appelle de la prévention.
D'accord.
Voilà. Par contre, si tu fais des conneries à un moment donné et ce qu'on appelle des infractions graves génératrices d'accidents, là effectivement, c'est sanctionné.
Donne-moi un exemple.
Ceinture. Le non-port de la ceinture, c'était une infraction grave génératrice d'accident.
Mais c'est à toi que ça cause.
Le téléphone,
génératrice d'accident pour lui.
Pour toi?
Ah bah oui. Mais
pourquoi te sanctionner?
Bah parce que c'est le but. Le but de notre mission, c'est aussi de protéger les citoyens et les protéger autrui.
Bah tu lui dis de remettre la ceinture, mais tu le pénalises pas.
Je me permets de prendre la ceinture.
Pourquoi tu lui mets une amende? T'as qu'à lui dire remets la ceinture.
Il a pas forcément complètement tort. Par contre, quand on voit certains parents qui ne mettent pas la ceinture aux enfants, là c'est plus que des tatacs.
Revenons à ce que disait Henri, parce que le propos d'Henri, justement, la ceinture est le très bon exemple.
Oui.
Il te dit pourquoi le mec il dit vous avez pas votre ceinture, c'est 65 €. Il devrait dire monsieur mettez votre ceinture sinon.
Exactement.
C'est 65
euros. Exactement. C'est ce qui se passe.
Non pas du tout. Je pense que ce qui manque aujourd'hui, et je suis très, je dirais, patient, je pense, c'est de voir par rapport à d'autres pays que la manière de faire de la police et de la gendarmerie en France fait qu'on n'apprécie plus la police, on n'apprécie plus la gendarmerie. Ils devraient dire par exemple, ils arrêtent la voiture, ah attention là. Vous n'êtes pas en faute, vous ne mettez pas en jeu votre sécurité et des enfants, mais je vous demande, c'est un avertissement, je vous demande de remettre votre ceinture. C'est un avertissement. Oui, et ce n'est pas brutalement 300 € à payer.
Dans la loi, existe encore, quand tu es arrêté, n'importe comment, que ce soit pour la voiture, pour autre chose, ils doivent être à deux, avoir les gants et te saluer.
Ouais, alors.
Non, Michel, c'est plus d'actualité,
alors là,
je promets que c'est plus d'actualité.
C'est
dommage,
c'est plus d'actualité
à
l'époque.
Parce que ça manifesterait une politesse.
Je dis, c'est débat.
Exactement. Et hier,
arrêté par trois agents de police.
Mais c'est pas la même chose, gendarmerie police, déjà. Tu peux pas mettre les deux dans le
sac. Non, mais je prends un exemple, c'est effectivement eux aussi qui sont chargés d'assurer la circulation, la sécurité, etc. Et ça dépend des théâtres, des opérations, on est d'accord. Ça dépend des espaces. Mais
exactement.
Là, clairement, je commence. Alors, je dis bonjour, etc. Bon,
tout à fait.
Je dis, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Monsieur, j'ai pas envie de vous écouter, je vous écouterai pas.
Ça, c'est la police qui t'a dit ça?
Oui.
Voilà, la police.
Voilà, alors je dois dire que j'allais voir quelqu'un qui était allemand, une personne qui est allemande, qui est professeur dans une école. Et elle me dit, en Allemagne, ça se passerait jamais comme ça.
Non.
Jamais.
Vogas du Wien.
Il y a. Les Allemands aiment beaucoup leur gendarmerie et leur police.
Indistinct.
Alors, moi
je pose la question de l'essentiel.
C'est le mauvais comportement, la mauvaise éducation qui fait qu'il se comporte mal.
Il s'est passé quelque chose. Je ne te parlais pas de la gendarmerie, hein. Je parlais de la police. On s'est fait arrêter, La Bastille. Écoutez bien. Le grand couloir. On voit les trois policiers. On se retrouve sur le quai. Il nous plaque. Parce que Christophe est là.
Il te plaque, c'est-à-dire qu'il te prenne au sol.
Attends, il nous plaque parce que Christophe, il a la coiffure un peu bizarre.
Ah oui.
Il nous plaque. Et il y avait un vieux flic, je vais le dire, et deux jeunes cons qui nous plaquent comme ça.
Coup de pied.
Et réaction qu'il a eu, Christophe, heureusement que je l'avais sur moi, c'est pas pour crâner, je dis ça. Christophe avait dit, regardez bien mon partenaire. Moi, c'est pareil, mais moi, je l'ai pas. Là, regardez notre décoration. Le vieux flic fait arrêtez tout. Et là, j'aurais pu obligé de dire fallait nous saluer avant de nous plaquer. Ça, c'est le flic, je parle.
Voyons que tu t'es fait plaquer par un policier, Michel.
C'est pas à peine de faire de la tête, c'est exactement ce qui s'est passé.
Non, mais c'est pas ça, Michel. Mais
non,
tu t'es fait plaquer par un policier.
Bien sûr.
Bah, quelle honte.
Il y a 8 ans de ça.
Et Henri,
il y a 8 ans.
Pour répondre à ta remarque, ouais. La gendarmerie est l'une des institutions les plus préférées de France et qui gagne le meilleur prix de l'accueil public aujourd'hui.
Depuis, le gendarme de Saint-Tropez.
J'aime beaucoup les gendarmes.
Je lève la main parce qu'il y a deux choses que j'ai envie de dire depuis tout à l'heure.
Lève la main, Jiwana.
Depuis le gendarme à Saint-Tropez.
Alors, au niveau de la gendarmerie, je ne sais plus où.
Depuis le gendarme à Saint-Tropez.
Peut-être que c'est en Normandie, peut-être que c'est ailleurs, je ne sais plus. Il y a pas si longtemps que ça, les motards de la gendarmerie qui arrêtaient des motards. Est-ce que vous savez pourquoi?
Ah.
Alors où ça?
Je sais plus.
Sur la route,
sur la route,
en province,
oui, sur la route,
c'est pas,
en province.
C'est pas Paris.
Non, c'est en province. C'était en zone gendarmerie.
Pour savoir s'ils avaient un test anti-alcoolique dans leur moto.
Non.
Pour savoir s'ils portaient un slip ou un string. Pour savoir s'ils avaient un triangle.
Non.
Un gilet.
Non, c'était pas à but préventif.
C'était pour sanction.
Non, du tout. C'était pas à but sanctionnel, je veux dire. C'était plutôt
ni préventif ni sanctionnel.
Même pas préventif, préventif si on veut. En fait, ils arrêtaient que les motards qui n'étaient pas en infraction pour leur donner une récompense.
Ah oui, j'ai vu ça.
Bah voilà.
Ça
c'est bien
ouais,
ça.
Ouais, j'ai vu.
Voilà.
Alors, quelle était la récompense?
Les mecs étaient effrayés.
Il y a quelques temps, c'était un louis d'or. C'est-à-dire que les gendarmes ou la police nationale suivaient.
Ils étaient riches.
Sur les biens du.
À cause des radars, c'est à cause des radars ça.
Et pendant 20 minutes, s'il n'y avait aucune infraction, l'automobile s'était arrêté, contrôle des papiers pour savoir si c'était en règle, il y avait un louis d'or qui lui était donné pour récompenser sa bonne conduite.
Les impôts.
Si on va plus
nos impôts, dis donc.
J'ai une anecdote aussi avec la police nationale cette fois.
Je me suis fait plaquer aussi.
J'étais avec mon meilleur ami qui à l'époque avait la très mauvaise idée d'avoir des trucs, vous savez, les gros dés de beauf là, à l'arrière sur son pare-brise arrière. Des gros dés de beauf avec
les dés en peluche.
Et il avait un t-shirt aussi pareil, c'était marqué SOS orgasme machin.
Ah ouais, mais là c'est limite
ouais,
hein.
Mais si t'as des potes beaufs, Julien,
gros beauf.
Voilà.
Ah ouais, on a compris.
Donc
gros beauf.
Alors attendez c'est pas fini. Apparemment il semblerait qu'on ait pris un sens interdit dans la ville. C'est pour ça qu'ils nous ont arrêtés. En voyant ces trucs là voilà qu'il n'a plus aujourd'hui.
Il n'a pas pris.
Heureusement, il est papa parce que là, ça sera encore pire.
Du coup, il met bébé à bord.
Ouais, voilà. Donc le policier l'a fait descendre. Lui fait ouais, c'est quoi ce truc, vous savez, ça cache la visibilité. Je peux vous verbaliser et tout. Donc il menaçait de verbaliser pour ça apparemment, et aussi pour le sens interdit.
Oui, surtout pour le sens interdit.
Et le policier lui fait écoutez, pour cette fois, ça passe. Bon.
Le sens interdit.
En tout cas pour ça, attends. En tout cas pour le dé et les conneries, là ça passe. Il revient à la voiture, je regarde mon pote, je dis mais et pour le sens interdit? Il fait bah oui, donc il se retourne vers le policier, il fait pour le sens interdit.
Ah, il lui demande.
et le policier lui fait bah pour le sens interdit c'est cadeau.
Ah voilà. Bravo.
Bah, dis donc.
On peut l'applaudir.
Alors,
et bah,
le dé
voilà.
était derrière côté.
Bah, on peut applaudir la police.
Alors déjà il est complètement con le mec parce que déjà.
Personne n'achète des dés en plus.
Qui est con?
Bah, le policier. Qui a dit que c'était complètement.
Ouais, parce que là il est dans son droit.
Parce que de toute manière, quand t'es en camionnette et que t'as un truc derrière toi et que t'as pas de visibilité, tu fais comment? Tu vois pas. Donc c'est prévu au code de la route ça.
Voilà.
Donc c'est complètement con. Déjà le mec, il met pas le code de la route.
J'en sais rien. Après, en tout cas, il a pas mis la prune.
Bah, il était très
sympa. Mais je rejoins Henri quand même, et c'est vrai pour avoir été dans les deux institutions. Côté gendarme est beaucoup plus professionnel. On le ressent au niveau des procureurs de la République qui à chaque fois nous disent que votre dossier, votre procédure est impeccable sans faute d'orthographe. Mais côté police, par contre, il y a beaucoup de choses qui laissent à désirer. Mais ça ne m'étonne pas parce que
on salue la police française.
Le casting est quand même de pire en pire.
Pas facile.
Donc,
pas facile.
Et puis,
il y a des gens bien quand même.
Le problème des gens bien. Tu sais, c'est quoi le problème des gens bien? C'est qu'à un moment donné, ils tombent dans un burn-out parce qu'ils rattrapent les conneries de leurs collègues. Et à un moment donné,
c'est vrai,
ça passe plus.
C'est vrai ce que
tu sais, parce que moi, je suis arrivé une fois. Je suis arrivé dans ce commissariat, d'accord. Je venais d'arriver. Il y a eu une interpellation d'un jeune client, Bazané. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont contrôlé, faciès évidemment, et ils ont fouillé dans ses poches et ils ont sorti du stupéfiant. Sauf que fouiller, c'est interdit. Sinon, ça s'appelle une fouille de sécurité quand tu le mets en garde à vue. Et le problème, c'est que quand tu fais ta procédure judiciaire derrière ton PV, bah, t'es obligé de signer parce que t'es dans la patrouille. Sauf que moi, je n'ai pas signé parce que moi, je suis assermenté et je ne sais pas ça qui s'est passé sur, sur l'interpellation. Et si tu signes et qu'à un moment donné, le gars, il voit la posture, l'interpeller, dire « mais c'est pas ce qui s'est passé, monsieur le juge. » Et donc, on te convoque au juge, devant le tribunal, en disant « expliquez-moi. »
Et tu dis comme tous tes collègues voilà. Dans ces cas.
Eh ben non, je peux pas le dire parce que moi, je mens pas. Tu vois.
C'est pour voilà. Ça que tu es pur.
C'est pour ça qu'à un moment donné, tu es obligé de rattraper la connerie de tes collègues et tu es dans un certain burn-out parce que voilà, t'es mis de côté.
Alors c'est vrai que bon, normalement ça ne devrait pas. Hein. Normalement les policiers devraient être tout aussi professionnels que les gendarmes. Mais c'est vrai qu'on entend quand
plus
même
de boulot.
Plus de boulot, je sais pas. Mais c'est vrai qu'on entend quand même plus de j'allais dire de bavures ou de problèmes avec des policiers que. Bah,
c'est la ville. C'est la ville contre la campagne.
Plus de boulot, ouais, non ça, pourquoi ouais. Parce que en province, que... les gendarmes, il y a un gendarme pour 1000 habitants. En police, il y en a plus que ça.
Alors je, non mais
les
je,
habitants des villes je, sont plus rudes.
Je sais pas si c'est la ville ou la campagne. Parce qu'en fait, même dans leur milieu personnel, il y a. Enfin, je sais pas, j'ai jamais entendu personnellement d'histoire de gendarmes qui tabassent leurs femmes, par exemple. Par contre, des policiers, t'en as entendu parler.
Ah, ça, ouais.
Alors attention, voilà. Merci à nos amis policiers. Ouais,
je voudrais soulever un problème qui est.
Le jeudi, c'est débat. Hein.
Ah ouais,
je voudrais soulever un problème qui est important. C'est-à-dire, en France, on est quand même, par rapport à tous les pays du monde, un peu des spécialistes du droit. Il faut le reconnaître, on est un peu chatouilleux là-dessus et on développe des lois, des règles dans tous les sens.
Trop.
Autrefois, en fait, il y avait une école du droit en France, qui était avec le code Napoléon, etc., qui était basée, il faut savoir, sur, je dirais, le code latin, sur le monde méditerranéen. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai combat. On va revenir aussi sur les enjeux stratégiques, sur les enjeux de nos pays, en termes d'économie.
Européaniste.
Et exactement. Et entre, je dirais, la philosophie et la manière de faire des pays du Sud
latin.
Et la manière de faire des pays anglo-saxons.
Ouais.
Et je pense qu'aujourd'hui,
la rigueur face à
il y
la
avait
liberté.
Une, enfin, en particulier, il y a deux conceptions différentes. C'est qu'en France, il y en a un qui est arrêté et il est présumé innocent tant qu'on n'a pas démontré qu'il était coupable.
Absolument.
Et dans le droit anglo-saxon, il est considéré comme coupable tant qu'il n'a pas été démontré qu'il était innocent. Mmh. C'est deux conceptions très différentes d'aborder quelqu'un. Eh bien, aujourd'hui en France, vous regarderez, on a développé à travers les médias,
je suis innocent.
À travers les médias américains, à travers les feuilletons américains, à travers les films américains, à travers les jeux vidéo américains, on a développé auprès des jeunes, auprès des moins jeunes, une mentalité américaine qui fait qu'on est dans la suspicion,
on est coupable,
on est dans la méfiance,
on est mis en examen,
on accuse les gens, on les désigne comme coupables,
les médias,
avant même qu'ils aient été jugés.
Voilà. Oui, mais est-ce que c'est une question
et c'est catastrophique. Ça veut dire qu'il n'y a pas la présomption d'innocence.
Oui, mais c'est un état d'esprit, c'est un état d'esprit. Henri, c'est un état d'esprit.
Je regarde un petit peu aussi du coin de l'œil le gendarme qui est à côté de moi.
Isabelle, laisse parler.
Je sais plus du coup. Si, est-ce que c'est une question de déformation, de déformation et d'américanisation des Français.
Exactement. Ouais,
ou est-ce que c'est une question déjà de gens qui sont jugés par le tribunal médiatique en amont d'être jugés par le tribunal judiciaire.
Les deux, en général.
Toutes les affaires qui se passent en ce moment, c'est le cas.
Pas tout à fait.
Les gens sont déjà jugés par Twitter et par les médias, devient le tribunal populaire.
Et c'est trop tard, ça brise des vies, des carrières et tout.
Il y a effectivement des manipulations qui sont faites au niveau, quelquefois économique, au niveau politique, pour semer, je dirais, du fiel, semer de la merde, dire du mal des gens. Et donc effectivement, ça c'est totalement à dénoncer, mais ça existe. Et puis d'un autre côté, il y a quand même une question qui se pose, c'est sur, je dirais, la capacité des juges, et même pas uniquement des juges, mais de faire ce qu'on appelle l'interprétation de la loi. Alors, autrefois, dans le droit français, justement, il y avait la loi, les décrets, etc., et la mise en application des lois. Et dans cette mise en application des lois, à chaque niveau de l'administration, à chaque niveau, je dirais, des responsables, il y avait une capacité d'apprécier la situation. Absolument. Et d'interpréter la loi en fonction de la situation.
Oui.
Étant donné les automaticités qui ont été mises en place, en particulier avec le code de la route, puisque telle infraction, on ne tient pas compte ni du jour, ni de la nuit, ni de la circulation, et on met quand même une amende. Pour un exemple, on est à 135 ou à 145 sur une autoroute la nuit à 2h du matin, il n'y a personne, on a la même amende que si on a une circulation énorme.
Il y a du monde.
Exactement. Donc c'est totalement incohérent, mais on a accepté ça, et je dirais que nos hommes politiques ont accepté ça, tout simplement parce qu'ils avaient peur. Bon, on verra après pourquoi.
Alors,
mais il est clair qu'aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'apprécier une situation ?
Juste le gouvernement, là, a mis quand même une loi où même si on est à plus de 5 maintenant, il y a une certaine forme de... Ils ne te mettront pas obligatoirement une prune ou quelque chose. Si avant, c'était déjà le cas avec les radars. On considérait qu'il y avait 5 km/h en plus. Tu pouvais rouler à 50.
Je te remercie de défendre le gouvernement. T'es efficace. T'es bon.
Non, mais sérieusement, ils ont rajouté encore 5 km/h. C'est-à-dire qu'en dessous de 10, tu ne prendras pas de prune.
C'est en cours.
Je t'aime bien, mais c'est une question de pourcentage. C'est pas une question de chiffres. C'est-à-dire que si t'es à 50 km/h, 5.
Non, mais si t'es à 54.
Si t'es à 140, 14, c'est 10%.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que si t'es à 135 au lieu de 130, tu prenais pas d'amende jusqu'aujourd'hui. Ce qui considère qu'il y avait 5 km/h.
Si je suis à 140, j'en prendrai plus.
Si t'es à 139, tu n'en prendras pas.
Bon.
Donc il y a une forme de libéralité.
C'est voté.
C'est pas encore voté, mais c'est en cours. D'ailleurs,
Mais moi, je crois qu'aujourd'hui.
Donc ils desservent. Non, c'est pas sûr que ça peut.
Ils desservent. Voilà, ils desservent un peu.
Mais après, faut se rendre compte aussi.
La question intéressante.
Faut se rendre compte aussi que quelquefois, on peut passer à 135 au lieu de 130. Ou 137 au lieu de 130, maintenant avec la puissance des voitures, sans s'en rendre compte obligatoirement.
Moi j'ai une voiture, elle booste,
c'est une sportive, je peux passer de 130 à 137. Est-ce que je suis un danger, d'autant plus je sais pas, mais de me faire avoir une prune parce que je suis à 137 au lieu de 130,
faut mettre le régulateur de vitesse.
Je voulais juste revenir deux secondes sur l'américanisation du droit par les gens, par le grand public en fait. Je regarde là du coup aussi le réserviste et l'ancien actif qui est à côté de moi. Quand on entend des fois des gens en France qui demandent est-ce que vous avez un mandat d'arrêt ? Le mandat d'arrêt n'existe pas, il me semble, normalement en droit français. C'est la commission rogatoire.
C'est pas un mandat d'arrêt, c'est le mandat de perquisition qui est confondu avec la commission rogatoire. Mais bon, ça, c'est, on va pas rentrer dans les détails parce que c'est très complexe. Par contre, effectivement, tu as raison, le mandat de perquisition n'existe pas. Par contre, je rebondis effectivement, Henri, sur tout à l'heure par rapport au téléphone. Tu as raison, moi, quand je contrôlais les personnes, je leur faisais la prévention. Sauf qu'à un moment donné, s'ils basculent de l'autre côté, côté agressif, là, par contre, c'est eux qui vont perdre. Hein. C'est jamais moi qui perdra. Et par contre, je donne un exemple. Les personnes qui prennent des stupéfiants au volant et de l'alcool, on doit rien dire, on doit faire que de la prévention. Sauf que moi, j'ai ramassé une nana à Noël, le 24 décembre, avec son petit. Un mec est arrivé le matin alcoolisé et avec stupéfiants. Il a tapé dans la nana avec le véhicule. Mmh. Le bébé de 7 mois est décédé dans son ventre. Il n'a pas été reconnu comme homicide involontaire puisque le bébé n'était pas encore né. Donc il n'a pas pris grand-chose. Et la nana, par contre, est détruite. Le mari est détruit. Et là, on vient d'apprendre avec les copains de Fred qu'un de ses enfants a été tué dans un accident de la route par un alcoolique qui l'a tapé en véhicule également. Donc tu vois, là, à un moment donné, si tu dis, et c'est ça que je veux te dire, c'est que tout ce qui est infraction génératrice d'accident, normalement, ne fait pas de cadeau. Donc ça comprend la ceinture.
J'entends très bien.
Ça fait partie des infractions graves génératrices d'accident.
Mais c'est toi.
Non,
c'est
mais il n'y a pas que toi. Parce que tu es catapulté.
Bien sûr, tu peux effectivement, je dirais, blesser d'autres personnes. La question qui se pose de fond, si tu veux, d'abord, c'est aujourd'hui, quelle est la densité d'accidents en fonction des carrefours, en fonction des lieux. On sait très bien aujourd'hui.
On a les cartographies accidentogènes des endroits. On sait très bien là où il y a le plus.
D'ailleurs, faut tenir un discours responsable
aussi. Et quelle
en est
la gravité.
Et leur dire de porter leur ceinture, leur dire de ne pas boire avant de prendre le volant, ni de fumer avant le volant.
Alors, ça, c'est
ça aussi, ça, il faut le préciser.
Et malheureusement, il y a des pots de vin. Et donc, il y a aussi, parce que je vais prendre l'exemple de boîte de nuit que je connais, qui effectivement, ils veulent avoir des clients. Et on tolère à côté qu'il y ait effectivement des gens alcolisés, etc.
Ah oui, il y a tout un truc.
Il y a une tolérance aussi.
De quoi des boîtes de nuit?
Bah oui.
Tu fais du chiffre. Oui, d'accord. Sauf que quand tu as des gens qui quittent la boîte de nuit et que tu vois qu'il y a un accident, nous on enquête derrière et on se dit. Il vient d'où ce cher monsieur ? Il vient de la boîte de nuit d'un tel ou d'un tel de tel endroit. Et bien nous, on fait une enquête derrière et je peux te dire que le patron de la boîte de nuit, il est condamné pour avoir laissé sortir des personnes bourrées rentrer chez eux.
Mais ça, il faut le redire, c'est important.
Donc ce soir,
aujourd'hui, il y a une responsabilité collective. Voilà, mais en même temps, d'un autre côté, ça ne doit pas être une justification pour, je dirais,
saquer
tout le monde.
Bien sûr.
Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on est dans une logique qui n'est pas d'interprétation de la loi.
Ça s'appelle le discernement, Henri.
C'est plus du discernement. C'est l'appréciation de la situation. Et je pense qu'il faut revenir à cette appréciation de situation. Et j'aurais juste rajouté une question. Qu'est-ce que vous pensez, en fait, de développer un permis à points positifs?
Alors, point positif, c'est quoi ça? Point positif,
c'est une bonne idée, ça veut dire que
tu augmentes ton nombre. Si t'as, par exemple, pendant 6 mois, t'as pas de fait d'accident pendant un an,
tu as
t'as un point en plus.
Okay. Alors, si
Oui, ça c'est bien.
Si pendant, je dirais, 20 ans, t'as eu aucun accident, mais c'est une première option. Ensuite, il y a une autre option. Si je fais, par exemple, un stage de conduite sur glace, ou si je fais un stage de conduite accélérée, etc., ou même sur circuit mode rapide, etc.,
je gagne des points.
Eh bien, je gagne des points.
Moi, je serais d'accord. J'ai pas conduit depuis le mois de décembre.
Je prends un exemple. Eh bien, aujourd'hui, il y a des gens qui sont bien formés, bien entraînés, qui peuvent effectivement sur un autoroute rouler à 180 sans aucun danger. Et j'en ai fait partie, donc je le sais. Et d'autres aussi, avec une formation. Cette formation pourrait être reconnue et donner des points positifs.
Oui.
Et ça donnerait en gros aussi un objectif à des jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ont besoin d'avoir des objectifs
aujourd'hui,
positifs.
Aujourd'hui, l'objectif, c'est pas perdre de points.
Et non pas, en train de les saquer, mais en train de les former.
Mon objectif, c'est de ne pas perdre les points.
À développer, je dirais, des capacités réflexes, à développer, je dirais, un service vis-à-vis des autres, à avoir une responsabilité qui est développée. Eh bien, aujourd'hui, moi, je propose justement un permis à points positifs.
C'est une annonce qu'on vous fait. Tous pour le permis à points positifs.
Ce que je trouve décevant, personnellement, je regarde encore une fois le gendarme, parce que depuis hier, on est souvent d'accord, en fait. Moi, ce que je trouve décevant aussi, c'est quand des gens qui ont clairement fait une infraction, même très grave, et qui disent aux forces de l'ordre qui viennent de les arrêter, oui, mais de toute façon, vous êtes tous des cons, vous êtes tous là pour nous arrêter, machin. Mais il vient de faire une infraction très grave. Donc, en fait, il a juste à se taire et à ne rien dire. Et malheureusement, il y en a beaucoup comme ça.
Oui, mais bon, ça après. Alors, par contre, Henri, je suis d'accord avec toi. Et sache que je salue, moi, mon oncle, qui, depuis plus de 40 ans, son permis de conduire, il n'a eu, à ce jour, zéro infraction.
Ça, pas c'est pas pour perdu. On l'avait eu à l'antenne.
C'est exactement ce que j'allais dire. Je me souviens très bien parce qu'on l'avait eu à l'antenne. On l'avait appelé pour le féliciter.
Oui, je m'en souviens.
T'étais là ?
Non, mais moi, je ne le félicite pas.
Pourquoi ?
Parce que je pense que dans une vie normale, il y a une certaine prise de risque et que les radars automatiques, je dirais, n'ont aucune conscience de la possibilité d'accélérer ou de ralentir un véhicule.
Avec Henri, si vous voyez un radar, vous foncez.
Essaye de le faire et puis tu perds
comme un avion de chasse.
Tu es juste stoppé, effectivement, par l'amende. Mais c'est pas une question.
C'est
pour toi, c'est pas une question de sécurité.
C'est
une question d'amende. C'est l'amende qui te fait ralentir.
Voilà,
bien sûr.
C'est le pèse.
Et parce qu'à partir du moment où tu prends dans le porte-monnaie des Français,
mais la France de demain. Non, mais alors, Stan, je suis désolé.
On le sait.
La France de demain, la France de tes enfants,
c'est
une France qui grandit, qui se développe et qui est responsable.
Non, pas du tout.
C'est ce que je souhaite.
C'est pas du tout.
Ce que je souhaite pour tes enfants.
Moi aussi. Mais c'est pas du tout.
Ça tombe bien, il en a pas.
Avec ton aide. Avec ton aide.
Fin du débat.
Alors, tu connais pas.
Il en a pas.
Isabelle, tous ceux qui l'ont,
reviennent dans quelques instants.
Toutes les stars de la musique.
Allez, Dynamique Radio, toutes les stars de la musique. Et puis, c'est jeudi, c'est débat. Hein, vous l'aurez compris, chaque semaine, chaque jeudi, c'est débat. On débat. Et Michel, il voulait rajouter quelque chose. Après le plaquage, qu'est-ce qui s'est passé?
Non, c'est pas le plaquage. C'est que la police fait beaucoup de choses. Mais j'ai le respect de cet homme. Il y a quelques jours, il n'y a pas longtemps, qui laisse deux filles et une femme et qui s'est tué en plein dans son travail avec son pistolet de service.
Et oui, il y a beaucoup de suicides.
Alors ça, c'est atroce.
Il faut rappeler quand même que la police, quand même, fait aussi quand même du bon travail, pas que du mauvais travail.
Oui, mais c'est
bien sûr.
Mais d'ailleurs, on précise heureusement qu'il y a une police en France aussi. Parce que
ce qui est dit là, c'est le regret que nous avons.
Oui, je suis d'accord.
Que nous n'ayons pas une image suffisamment positive pour soutenir et encourager nos policiers.
Mais la faute à qui aussi? Mais heureusement, fois qu'il y a des caméras.
On salue Olivier Dubrana, Kitchenette qui passe. On parle de la police, Olivier.
Voilà. Heureusement qu'aussi il y a des caméras pour montrer que certains sont innocents, parce que je pense qu'il y aurait beaucoup d'abus quand même également.
Mais je crois que malheureusement, les policiers sont pris entre deux feux. D'abord, la mission qui est la leur, c'est la mission d'ordre, c'est de l'ordre public.
Et de protection.
Oui, mais d'ordre public. Donc, en particulier, est-ce que
protégez-moi. Protégez-moi.
Et de prévention.
Est-ce que telle personne.
Protégez-moi.
Présente
sécurité.
Ah oui.
Est-ce que telle personne présente un trouble à l'ordre public? Parce que ça, c'est le motif fondamental. Est-ce qu'il y a trouble à l'ordre public? Et ça, c'est leur mission top.
Quand tu te balades en frelon, est-ce qu'il y a trouble à l'ordre public?
Mais il y a un vrai problème.
Ça s'appelle des gardiens de la paix, c'est pas pour rien.
Mais il y a un trouble à l'ordre public. Mais il y a un vrai problème, c'est que cette mission a été totalement dénaturée à cause justement du fric. Et qu'on leur fait faire maintenant un sale boulot, je dirais, de récupération de fric, que ça soit en ville ou que ça soit à cause des radars, etc. Et donc ça les tiraille entre deux choses. Et donc ils ne savent plus comment faire. Et ils sont complètement tiraillés.
Allez, on parle de paix, on va revenir à notre sujet, parce qu'il est là pour ça chaque semaine.
On parle de paix, on va parler d'Ukraine, ça va changer.
Voilà, un point éclairage sur ce qui se passe en Ukraine tout de suite dans l'After School avec Père Henri. Alors.
Non mais c'est vrai en plus.
Alors la question.
Ah oui. Moi c'était un joke. Hein.
Moi je que.
Et vous nous retrouvez au bus Palladium ce soir.
Ouais.
Alors la paix dans le monde, moi je pense qu'il y a un souci énorme.
Oui. Oui, vas-y.
Je disais la paix dans le monde. C'est vraiment un souci de chacun et je pense que chacun peut se poser des questions sur ce qui se passe actuellement. Alors il y a 20 millions de tonnes, il y a 20 millions de tonnes de blé qui est en attente de départ de l'Ukraine et de la Russie pour aller vers les pays pauvres. Parce que le blé d'Ukraine et le blé de Russie ne va pas en France, il ne va pas en Angleterre, il ne va pas en Espagne, il ne va pas aux États-Unis.
Il va dans le Maghreb.
Dans les pays, je dirais, d'Afrique, et il va dans les pays pauvres aussi d'Asie, etc. Et aujourd'hui, il y a eu un appel. Alors, qui est la seule personne qui a fait un appel par rapport à cette guerre dégueulasse contre, effectivement, l'alimentation des plus pauvres? Qui a fait un appel?
Macron.
Bah, c'est pas notre président.
Non.
Non.
C'est un chef d'État?
En quelque sorte.
La reine.
Queen Elizabeth.
Queen Elizabeth.
Non.
Moi, j'aurais dit Henri a fait un appel. Non.
En quelque sorte, non. C'est un chef d'État.
Oui.
Catholique?
Parce qu'effectivement, il a un État
orthodoxe.
Catholique.
Le pape, le Vatican.
Et donc le pape François a dénoncé dimanche dernier cet embargo qui prive tout un tas de populations de leur nourriture essentielle.
Merci à lui.
De leur nourriture essentielle.
Bah oui, c'est la nourriture.
Alors
de
la
base,
question qui se pose aujourd'hui, effectivement, c'est quid de cette manière de faire, voilà. Et je pense que la question se pose, quelle est la stratégie de la France et de l'Europe, encore une fois? Est-ce que c'est une stratégie de paix ou c'est une stratégie de guerre? Quelles sont les négociations qui sont en cours? Il n'y en a pas.
Nous, on cherche la paix.
Nous, on devrait être vraiment
artisans
de paix.
Bah, nous, en tant qu'habitants, mais...
Non, mais l'État français cherche la paix via diplomatique.
Bah, pour moi, l'État français...
Henri, je pense qu'ils essayent de négocier.
Mais ils vendent des armes, quand même.
Écoute, pour l'instant, a priori, il n'y a pas de négociations engagées ou celles qui avaient été commencées n'ont pas abouti.
Djibouti, on dit.
Et en fait, aucun effort n'est apparemment fait ni par l'Union européenne, ni par, je dirais, d'autres États occidentaux. Donc, c'est vraiment inquietant. C'est inquiétant.
La guerre va durer, mesdames et messieurs.
Bah, demain.
C'est pas sûr.
On pense aux populations civiles parce que, malgré tout ce qu'il faut dire, ceux qui subissent aussi, c'est les populations civiles.
Moi, je crois pas que ça va durer.
Et c'est pour ça que le peuple ukrainien, malgré tout, et le peuple russe, notamment.
Également.
Peuple ukrainien et peuple russe, à travers l'embargo côté russe et à travers le conflit en Ukraine, bah, c'est le peuple qui subit et c'est ça, on est tout de cœur avec les peuples en question.
C'est toujours.
Anecdote, si tu permets.
C'est toujours.
Voilà. J'allais donc à la boulangerie il y a deux jours, donc récupérer du pain, comme tu sais. Et là, je rencontre un Américain, un homme. Là, je commence à lui parler.
Hello,
yes.
My name is Roger.
Ah, mais un jeune de 33 ans. Et alors, il me dit qu'il est là en vacances.
Roger Nadal.
Il est en fait en vacances pendant quelques jours. Il va à Roland Garros.
Ah, bah tiens,
c'était Roger Federer.
Non, mais il va uniquement, il vient en France uniquement pour Roland Garros.
Bah ouais, voilà.
Et
toi, ça te parle.
Il ramène du mauvais temps chaque fois à Roland Garros.
Alors,
ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai discuté avec lui sur la stratégie américaine, lui d'abord il s'est présenté comme étant la stratégie au niveau de la Floride. Bon. Et quand j'ai posé la question, mais pourquoi les Américains ont interdit Nord Stream 2, donc le pipeline
qui va directement
de la Russie à l'Allemagne, il dit pour une seule raison, c'est que les Américains contribuent financièrement à l'OTAN pour aider à protéger l'Europe. Et donc ils ont besoin de se payer en retour et donc ils ne peuvent pas accepter qu'on fasse...
Ça s'entend.
Voilà. Bah non.
Ça s'entend un petit peu.
Pas au détail. Ça se comprend, effectivement.
Ça s'entend.
Ça s'entend même
donc,
pas.
C'est... Effectivement,
faut des contreparties, tu le sais bien.
On peut voir ça comme ça, tout à fait. Dans tous les cas, c'était une réponse intéressante.
C'est du business.
Au
détriment des Allemands. D'ailleurs, les Allemands,
Des Français,
se militarisent maintenant.
Oui.
Attention, moi, il n'y a pas longtemps, on était en conflit avec les Allemands. Ils demandent
à reprendre de l'armement. Comme les Japonais.
Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir.
On va tous se taper sur la gueule, comme des cons.
Non, mais je pense qu'il faut vraiment chercher la paix.
Moi, j'y crois pas. Techniquement, entre pays de l'Union Européenne, on n'est pas censé se taper sur la gueule.
Tout est fait pour nous diviser, malgré tout.
Non, moi, je crois pas à un truc général, quoi.
Michel Walker.
Je crois pas à un conflit général.
Ah, tu sais, hein.
Moi, j'y crois.
Ça va vite.
Non.
Je
crois pas parce que tout le monde ne voudra pas se sacrifier.
Allez, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne le souhaite pas tous autour de la table. Merci, Père Henri, parce qu'il est déjà 18h27.
Il y a des gens qui ne voudront pas se sacrifier.
Merci, Michel Lebeau. Demain, Michel Lebeau, encore une quête. Hein. Ceux qui souhaitent participer dans l'équipe ou même chez les auditeurs, vous venez, on sera déguisé en clown, maquillé en clown. On ira faire une nouvelle quête auprès des forains. Demain, ce vendredi, c'est la dernière.
Tu viens, Henri, demain.
C'est la dernière.
Alors, qu'est-ce qui se passe demain?
C'est la dernière.
Est-ce qu'on peut avoir des infos?
Il y a du dossier demain.
Il y a du dossier.
Il y a du dossier.
On aura la reine.
C'est la fin.
On aura la reine des forains, Singrid Campion, qui viendra nous voir en exclusivité.
Ah, ouais. Vive la reine.
On aura. Alors là, ça va faire buzzer notamment les plus jeunes.
Oui.
Voilà, elle vend l'eau de son bain. Voilà, on l'aura avec nous.
Ruby
Nicara. Voilà, elle vend l'eau de son bain. Elle a fait buzz, hein, dans TPMP notamment. Voilà, c'est une. On aura l'occasion de la découvrir. On aura un champion du monde
de boxe anglaise.
Voilà, de boxe anglaise. Donc ça va être une émission
super.
On a
trois invités demain.
Trois invités pour le prix d'un.
Oh.
Voilà, il n'y aura pas beaucoup de monde autour de la table. Mais voilà,
on sera là.
Donc,
là.
Henri, tu seras là demain. Belle émission avec nos amis les forains, avec aussi nos amis les people et nos sportifs. C'est un peu la vocation de Dynamique Radio, de mélanger le sport, le people et la musique. Donc c'est grand. Et la fête aussi, c'est important. Et puis on salue l'action
sans
de
oublier,
voilà, sans oublier
que la fête des tueries démarre bien.
Et
le 24
et donc vous
juin.
Nous retrouverez, hein, normalement si tout se passe bien, vous nous retrouverez aux Tuileries le 25 à compter du 24, du 25 juin prochain. Voilà, on finira la saison aux Tuileries, messieurs et
pas
mesdames, donc vous
fait,
êtes les bienvenus.
Dans un jardin,
après il y a Neuneu. Après
il y a Neuneu aussi, voilà. Et après il y a les Tuileries.
Il y a ta mère aussi.
Voilà, on sera peut-être du côté du Bois de Boulogne. Pas pour faire de la radio.
Non. une course de rotation.
Voilà, on sera.
Et moi, ça m'arrange grave qu'on aille la fête à Neuneu, les gars. Je viendrai en voisin, je peux venir tous les jours.
J'ai compris qu'à dire ça m'arrange grave d'être à la boîte de boulot.
C'est Radio Nomade et c'est avec un grand plaisir. D'ailleurs, vous pouvez venir demain aussi. On sera nombreux. Et puis voilà, je sais qu'on aura du lourd aussi sur les réseaux. On va filmer parce que ça peut nous permettre de nous ramener du monde. Voilà, et on remercie encore Vincent aussi qui nous accueille depuis maintenant 3 semaines. Merci à toutes et à tous. Dans quelques instants, c'est Drop D avec Feriel. Voilà.
Une spéciale anniversaire.
Une spéciale anniversaire, oui, parce que c'est l'anniversaire de Feriel. 40 et plus.
Bientôt 40 et plus.
Voilà, Feriel. Voilà, on l'a. Happy birthday to you. Voilà. Et puis aussi, ne manquez pas à partir de 20h. À partir de 20h, Kitchenette, bien entendu, avec Bernard Avilliou et toute sa team. Salut à toutes et à tous.
À demain.